cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 29 mars 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
À la lumière de ce que vous avez dit, de ce qu'est l'éthique chrétienne, le philosophe qui regarde l'homme dans l'homme transformé par la grâce, pouvez-vous nous dire quel rôle les béatitudes ont sur un amour d'amitié? Les béatitudes et la grâce chrétienne vont regarder le Christ comme notre fin, comme notre ami. Alors, la grâce transforme notre prudence. Elle fait que tout dans notre vie doit être immédiatement ordonné au Christ. Sous le contrôle, sous la manière de vivre de Marie. Jésus est la fin. Marie nous aide à atteindre cette fin. Et la prudence informée par la charité est une prudence qui nous fait regarder le Christ comme l'ami, comme celui avec qui nous coopérions. Nous devons coopérer. Nous faisons l'œuvre du Christ et nous prolongeons l'œuvre du Christ dans la prière. Il est évident que la première chose que les vertus théologales transforment, c'est la vertu de religion. Pour qu'au point de vue prudence, la vertu de religion soit là pour rectifier tout ce qui intéresse directement notre santé, notre corps, tout ce qui est le milieu dans lequel nous vivons, tout doit être regardé dans la lumière de notre intimité avec Jésus. Tout doit être transformé pour que ça devienne pour nous comme un milieu favorable à notre vie chrétienne, un milieu dans la lumière de Bethléem, de Nazareth. Tout chrétien vit avec ses frères. Donc, c'est la charité fraternelle vis-à-vis de nos frères et qui est la première alertée. Comme Marie, après avoir reçu le message de l'ange à l'Annonciation, tout de suite va se mettre au service d'Élisabeth. C'est la première chose qui nous est donnée. ce service de la charité fraternelle à l'égard de ceux qui sont proches de nous. En premier lieu, ça. Et le service à l'égard de Dieu dans l'adoration. Charité fraternelle et adoration sont les deux grands moyens de transformer notre vie humaine par les vertus théologales. C'est cela qu'on doit voir immédiatement. C'est la prudence infuse qui nous fait comprendre cela et qui nous fait vivre de cela. Et à l'intérieur de ce milieu nouveau qui nous porte vers le Christ, nous avons ce milieu plus personnel qui est nos amitiés, notre ami, la charité ne supprime pas l'amitié. Ce serait une grave erreur de croire que la charité va supprimer, va empêcher les amitiés personnelles. Parce que nous avons besoin de ces amitiés personnelles pour pouvoir vivre plus pleinement des vertus morales. S'il n'y a pas d'amour, d'amitié, il n'y a pas de contrôle direct de la finalité. Comprenez que la contemplation n'a pas besoin des vertus morales. N'a pas besoin. Vous voyez ce que je dis, en elle-même. C'est pour ça que vivre tout de suite solitaire a toujours été considéré comme dangereux. Parce que vivre comme solitaire ne permet pas l'exercice des vertus morales. Vous voyez ? Et alors, nous développons les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité à l'égard de Dieu, mais non plus à l'égard du prochain. Et la charité fraternelle en prend un coup très rude. Alors que si nous regardons la Très Sainte Vierge, qui est quand même toujours pour nous le modèle d'une vie chrétienne, une vie chrétienne pleinement vécue, parfaitement vécue. La charité fraternelle prend tout de suite cette place très importante. Et à l'intérieur de la charité fraternelle, nous voyons comment notre vie chrétienne de foi, d'espérance et de charité va transformer nos amitiés humaines. Nos amitiés humaines qui sont bonnes en elles-mêmes et qui demandent à être transformées par la charité surnaturelle. Nos amis ne sont plus seulement nos amis, mais ils sont pour nous d'autres chrétiens aimés par le Christ et aimés et choisis par le Christ, qui sont des religieux, ils sont aimés du Christ. Ils sont choisis par le Christ avant d'être choisis par nous. Et c'est ça le point le plus important à saisir. Le choix du Christ est premier vis-à-vis de tous ceux que nous voyons autour de nous, et tout spécialement à l'égard de nos amis. Si le choix du Christ est premier, c'est cela avant tout qu'on doit respecter. Quand il n'y a pas la charité, nos amis peuvent être aimés par d'autres avant que nous les aimions, et nous respectons ce choix d'amis. Ne pas le respecter, ce serait très mal, parce qu'ils sont choisis déjà par Dieu. Et ils peuvent être choisis par d'autres chrétiens. Et ils peuvent être choisis par nous. Et nous devons respecter cela. Nos amis ont été normalement, pas toujours, voyez. Vous pouvez aimer quelqu'un qui cherche la vérité et qui n'est ni chrétien, ni musulman, ni protestant. Et vous devez éveiller en lui le sens de Dieu. C'est la première chose. Et vous le faites avec astuce. Parce que s'il vous aime, il n'aime pas en vous votre amour pour le Christ, il ne le connaît pas. Il vous aime en tant que vous êtes un être humain. Et donc, ce sera toute une pédagogie divine que vous devrez employer pour l'amener à Jésus. J'ai déjà cité ce cas que j'ai connu, cet homme qui voulait épouser une jeune fille à peine croyante pour la convertir. Il m'avait demandé, je le connaissais suffisamment, de bénir le mariage. Et j'ai refusé. J'ai dit, on ne se marie pas pour convertir quelqu'un. On se marie parce qu'on aime cette personne. Que si cette personne n'est pas croyante, on se marie en désirant qu'elle soit croyante, mais on ne se marie pas pour qu'elle soit croyante. Et j'ai refusé de marier. Ils ont demandé au curé. Le curé n'a pas fait attention, bien. Il les a mariés. Et un an après, ils revenaient à deux en disant, vous avez raison. On ne peut pas vivre ensemble. On ne s'aime pas. Vous voyez, la grâce respecte la nature. La grâce ne va jamais contre la nature. La grâce respecte la nature. Alors, lorsqu'il s'agit de la vie chrétienne, par rapport à l'amitié. L'amitié étant quelque chose qui doit être vécu pour elle-même. Je n'aime pas l'ami comme un instrument. Je dois l'aimer pour elle-même, pour lui-même. Or, j'aime Jésus pour lui-même. Vous voyez le problème ? Si il est croyant, si mon ami est croyant, alors c'est beaucoup plus facile, hein. C'est beaucoup plus facile et en même temps beaucoup plus difficile. C'est très curieux. Parce qu'on est conscient, l'un et l'autre, que l'amour humain doit être complètement transformé par un amour divin, tout en restant humain. Il faut les deux. Donc, il faut que l'ami puisse vraiment aimer Jésus comme un absolu et puisse respecter cet amour humain chez l'ami. Et donc, comprendre la supériorité infinie de l'amour du Christ et laisser à cet amour du Christ le soin de transformer l'ami qu'on aime encore plus s'il aime Dieu. Ne pas avoir peur que l'amour surnaturel viendra supprimer l'amour humain. L'amour humain doit garder son rythme propre, mais il doit être transformé par l'amour surnaturel. C'est-à-dire, il doit toujours, à travers l'ami, rejoindre Dieu, rejoindre le Christ. À travers cet amour, il faut que le Christ soit présent. Et il soit réellement présent par le fait même. L'amour qu'on a pour lui doit respecter entièrement toutes les exigences de l'amour divin. Si on est religieux, ça peut exister. L'amour à l'égard d'un religieux, à l'égard d'une religieuse. Respecter entièrement toutes les exigences de son état. Il ne faut pas dire l'amour est d'une certaine manière fin, et donc c'est lui qui doit me permettre d'avoir un rythme de vie nouveau. Non. L'amour à l'égard du Christ est premier. Et c'est lui qui me donne un rythme de vie spécial que l'amour humain doit respecter. Autrement, l'amour humain devient rival de l'amour divin. Et à ce moment-là, c'est une lutte entre l'amour divin et l'amour humain. C'est une lutte. Et on ne peut plus rester dans la paix. Il y a une lutte perpétuelle. Et quelquefois, ça peut détraquer complètement. Détraquer la personne, parce que l'amour est quelque chose de très grand, très puissant. Alors quand l'amour est passionnel, il veut accaparer, il veut prendre. Et donc, les deux amis, s'ils s'aiment d'un amour passionnel, veulent que l'amour qu'ils ont règle tout, même leur amour divin. Et s'ils sont engagés dans la vie religieuse, l'amour divin saute devant l'accaparement de l'amour humain. Devant, oui, l'accaparement de l'amour humain, l'amour divin va en pâtir. Et comme l'amour humain est plus sensible que l'amour divin, l'amour divin peut être très sensible, mais il peut très bien ne plus l'être. Parce que toute notre vie divine est commandée par notre foi. Et la foi peut, à certains moments, être très rude, très sèche, très froide. On sait qu'on aime Dieu, on ne le sent pas. On veut l'aimer. Tandis que l'amour humain ne connaît pas cette sécheresse, puisque il dépend de notre sensibilité. Et il assume notre sensibilité. Alors, l'amour humain, normalement, est toujours senti. Alors, si l'amour divin ne l'est plus, comme une purification de la foi, nous risquons de ne plus entendre que les exigences de l'amour humain. Et en entendre intérieurement. Et si on ne regarde plus que les exigences de l'amour humain, très vite, il y aura une dualité entre notre vie chrétienne surnaturelle du Christ et notre vie humaine. Ceci est capital à bien voir. Il faut être lucide. Et vous êtes très lucide. Et on peut quelquefois, puisque l'amour humain est seul, pleinement sensible, il peut très bien comme enfouir l'amour divin. Et il n'y a plus que l'amour surnaturel, il n'y a plus que l'amour, je veux dire, humain qui résiste. Je crois que cela demande une très grande lucidité au point de vue de la prudence. Parce que c'est la prudence qui, elle, de l'intérieur, notre prudence surnaturelle, qui de l'intérieur doit nous faire comprendre cela. Il faut bien voir l'ordre entre eux. L'amitié divine et l'amitié humaine. Et bien comprendre que si cette amitié humaine est purifiée et qu'elle est vraiment spirituelle, il n'y aura pas de dualité. Si cet amour humain est passionnel, il y aura nécessairement une lutte, parce qu'il faudra que notre amour humain soit purifié, complètement purifié, pour ne pas gêner l'amour surnaturel, pour être au contraire un terrain merveilleux pour l'amour surnaturel. Si mon amitié humaine est purifiée, vous comprenez très bien que c'est un terrain merveilleux pour la charité fraternelle. Et c'est ce qu'on voit, du reste, de temps en temps. Mais avant d'arriver à cela, il y a toute une éducation qui doit être faite. Et souvent, elle est faite grâce à quelqu'un qui nous aime et qui est capable de nous diriger, de nous aider à voir clair. Vous voyez que le nœud relève de la prudence surnaturalisée par la charité. Il y a une vision de charité sur notre vie commune, notre vie d'amitié, qui est très importante. Parce que ce qui existe par rapport à l'amitié peut exister par rapport à ce qu'on nommera le bien commun. Oui. Il y a la prudence surnaturalisée par la charité, transformée par la charité, qui doit régler ce cas de l'amitié humaine, ce cas du devoir vis-à-vis du bien commun. Eh bien, c'est notre prudence surnaturalisée, c'est notre prudence chrétienne qui doit comprendre comment l'amour d'amitié vis-à-vis de tel ou tel doit diminuer. Et qui permet à la charité surnaturelle de tout transformer. Mais si l'amitié humaine est, pour telle ou telle raison, pas assez purifiée, il sera un obstacle à notre vie surnaturelle. Il viendra arrêter l'élan de la charité. Et c'est pour ça que chez les auteurs spirituels, on voit ça chez la grande Sainte Thérèse, elle lutte contre ce qu'elle appelle les amitiés particulières. Bon, ces amitiés particulières sont tout simplement des amitiés non purifiées. Alors elles sont particulières. Si cette amitié humaine est purifiée, c'est tout à fait différent. Et ça se purifie longuement. Il y a un travail. Il ne faut pas croire, parce que nous sommes tous avec les conséquences du péché. Il ne faut pas croire que du fait qu'on est religieux, on est à l'abri de cela. Au contraire, du fait qu'on est religieux, on a plus envie d'aimer que n'importe qui. La vie religieuse intensifie notre capacité d'aimer Dieu et le prochain, au plan surnaturel et au plan humain. Parce que, au plan humain, on a une vie beaucoup plus régulière, donc beaucoup moins flatteuse pour les passions. C'est vrai. On est comme des... avec une visionnaire. La religieuse, elle nous lit. Elle nous lit vis-à-vis de notre vie. On a un règlement de vie. Et ce règlement de vie n'est pas favorable à l'épanouissement ou le développement de la vie passionnelle. Votre vie passionnelle est, avec le noviciat, elle est mise en cage. C'est des arrêts qu'on sent, c'est sûr. Votre imagination est arrêtée. Et l'imagination joue énormément dans l'amour d'amitié. Alors, on a, par le fait même, qu'on a freiné, qu'on a arrêté certains épanouissements passionnels, certains développements passionnels, par le fait même, il y a un frein, il y a du refoulage. Si ce n'est pas entièrement surnaturalisé par l'amour divin, ces refus font que la passion est d'autant plus furieuse que le refus est profond. Il y a un refoulement très profond au point de vue de l'amour sensible, de l'amour imaginaire. Et ce refoulement, alors, va éclater dans certaines circonstances et au moment où on vivra plus largement. Et ces refoulements sont d'autant plus dangereux qu'ils peuvent éclater dans n'importe quel moment. C'est jamais très lumineux, les refoulements. On a une lucidité pour un amour passionnel normal, mais on n'a pas de lucidité vis-à-vis des refoulements. Il faut être très attentif là-dessus pour saisir où se situent ces refoulements et s'ils sont suffisamment dominés et offerts à Dieu. Normalement, il ne devrait pas y avoir de refoulement dans une vie religieuse bien faite. Il y a la taille du Seigneur, mais il n'y a pas de refoulement. Tout est offert à Dieu. Mais il y a quelquefois des refoulements, et qui se voient plus tard, et qui sont des déraillements, des glissades. On n'a pas assez de volonté personnelle pour dépasser ça. Il n'y a pas assez d'amour divin pour dépasser ça. Et là, il y a un problème très important de voir comment la charité divine doit tout assumer pour tout respecter.